Radio Kapi.
Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Kindu au Maniema. Bienvenue à l'écoute du journal dont voici les titres. Nord Kivu, 3 morts, une arme récupérée et 2 camions incendiés. Bilan d'une attaque des ADF signalée hier soir dans la cité frontalière de Kassindi, 85 km au nord-est de la ville de Beni. La police, les FRDC, l'UPDF ratissent la zone, signalent nos sources. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit hier vendredi le vice-premier ministre de la fonction publique de tout mettre en œuvre pour garantir la formation des jeunes cadres de l'administration publique. C'est ce qu'a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, dans le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier vendredi. L'invité de ce journal est le président de l'Association nationale des victimes du Congo, Mirande Moulumba, parle de certaines dispositions de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus qui, d'après lui, méritent d'être revus ou tout simplement élagués pour ne pas continuer de consacrer l'impunité en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le territoire de Beni, une attaque des ADF a été signalée la nuit dernière dans la cité frontalière de Kassindi. C'est à 85 km au nord-est de la ville de Beni. Nous sommes au Nord Kivu. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, une arme récupérée et 2 camions incendiés. La police, les FRDC et l'UPDF ratissent la zone, disent nos sources. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
C'est le parking central de la douane de Kassindi-Loubiria situé dans le quartier Kongo Sika qui a été la cible des rebelles des EDF. Tout a commencé aux environs de 22h locales quand des tirs en armes légères et lourdes ont commencé à se faire entendre. Les tirs ont duré plus d'une heure. Les assaillants ont incendié des camions avec marchandises et criblé de balles un autre camion citerne. La police, les FRDC et les UPDF ont réagi promptement à cette attaque. Un rebelle a été tué et son arme récupérée. Deux civils convoyeurs des camions pris pour cible ont été tués. La société civile salue la promptitude de la réaction militaire qui a permis de limiter le nombre de morts. Depuis la récente attaque des EDF dans le parc Elizabeth en Ouganda, la présence de ces derniers a été signalée dans les environs de Kassindi. Denis Kalenga, coordonnateur de la nouvelle société civile dans le groupement Basongora.
Vraiment, depuis hier, la police et l'armée, ils ont bien fait le travail, y compris les EPDF. Ils ont travaillé comme des patriotes parce que ni c'était leur intervention, on devait compter le nombre de morts. Vraiment, ils étaient très vigilants hier, alors ils étaient vraiment éveillés.
La police, les FRDC et les éléments de l'UPDF continuent leur ratissage dans les quartier Kongo Sika, situé près du parc par où l'ennemi s'est retranché. Toutefois, le commandant de la police à Kassindi indique que le bilan peut être revu à la hausse. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Et toujours dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, les cours n'ont pas toujours repris dans la commune rurale d'Oicha, 3 jours après l'attaque des ADF qui a coûté la vie à 27 personnes au quartier Massossi. Parmi les victimes se trouvaient des élèves et enseignants de la place. La synergie locale des enseignants exige un dédommagement de leur famille avant toute reprise des cours et une rencontre avec les autorités. La société civile d'Oicha, pour sa part, encourage les enseignants à reprendre le chemin de l'école. Son président est Philippe Monané. Il est au téléphone de Marc Marofimbo.
On croyait qu'il y aurait cours, mais les cours n'ont pas eu lieu suite. Donc les enseignants se sont dit non, ils vont se mettre encore ensemble. Ils auront une réunion. Parce que pendant ce drame, on a constaté la mort de 3 enseignants, dont 2 de l'école primaire, 1 de l'école secondaire, plus les enfants élèves et les 2 enfants des directeurs. Alors ils ont dit non, même si la société civile a décrété les 2 journées de deuil, mais eux d'abord, ils vont se mettre pour voir au moins qu'est-ce qu'ils vont dire. Peut-être qu'ils vont sortir une déclaration. Nous serons dans leur réunion pour voir maintenant ce qu'ils vont prendre comme décision parce qu'ils ne peuvent pas encore faire souffrir les enfants. Juste après que nous finissions les journées de deuil, il faudrait qu'ils reprennent encore le chemin de l'école.
En Ituri, pendant ce temps, plus de 1800 élèves des différentes écoles des localités affectées par les conflits armés dans le groupement Loga, dans le territoire de Djougou, éprouvent des difficultés énormes pour étudier. Ils sont concentrés dans 2 établissements scolaires dont la capacité d'accueil ne permet pas aux enseignants de bien dispenser les cours. Leurs infrastructures scolaires ont été incendiées par des groupes armés, rapporte la société civile locale. Cette structure plaide pour la construction des écoles dans cette entité où de nombreux élèves ne vont pas à l'école depuis plus de 5 ans. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Il s'agit par exemple des écoles primaires Zaza, Lindji, Gobi, Jissa, Institut Tché et Lita dans le secteur de Olendo Tatsi. Depuis 2019, ces établissements scolaires ont été la cible d'attaques des groupes armés qui ont coûté la vie à des dizaines de civils et l'incendie de plusieurs maisons dans 13 villages dans cette entité. Selon la société civile locale, pour l'heure, de nombreuses écoles des localités sinistrées telles que Gouti, Goda, Palumbu, Zaza sont délocalisées dans le village Bi. Ici, deux établissements scolaires construits l'un par des fonds propre de la communauté locale et par une ONG humanitaire accueille environ 1800 élèves, parmi eux 1300 du primaire qui étudient dans des conditions très difficiles suite au manque d'infrastructures. Désiré Magunga.
Au moins 1300 élèves étudient dans un bâtiment. Il y a encore un PJS et il s'ajoute deux instituts. Il y a un besoin d'infrastructures, imaginez, avec 1300 et plus 500 des élèves. Il y a seulement 6 salles de classe qui s'est partagée de déranger, c'est-à-dire l'autre 6 salles de classe est construite par la communauté. Et cette salle reçoit 3 écoles.
Cet acteur de la société civile demande au gouvernement et ses partenaires de construire d'autres infrastructures scolaires pour favoriser l'accès à l'éducation pour tous. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu où des crépitements d'armes lourdes se sont poursuivis ce samedi dans la zone de Kibumba, dans le Nyiragongo, alors qu'une accalmie s'observe dans la zone de Bambo, en territoire de Rutshuru. Pendant ce temps, l'ONG Médecins Sans Frontières s'inquiète de la dégradation du contexte sécuritaire et humanitaire consécutive à ces combats. Au moins deux structures de soins appuyées par Médecins Sans Frontières se sont retrouvées au milieu des combats en territoire de Nyiragongo et Rutshuru, déplore l'ONG. Des détails avec Bernard Nyangui.
Dans son communiqué rendu public hier vendredi, le MSF parle notamment du centre de santé situé dans le site de déplacés de Kanyaruchinya, territoire de Nyiragongo, et de l'hôpital de Bambo, territoire de Rutshuru, où interviennent ces équipes. Les deux structures se sont retrouvées au milieu des combats à l'arme lourde dans leur proximité immédiate, respectivement le 23 octobre et le 26 octobre, entre les rebelles du 1-23 et les forces armées congolaises. Des dizaines de patients hospitalisés pour des cas de choléra ont dû fuir l'hôpital à Kanyaruchinya, alors qu'à Bambo, des dizaines de personnes déplacées vivant dans les environs ont été blessées. MSF condamne l'utilisation d'armes lourdes dans, autour ou contre les établissements de santé et rappelle à tous les belligérants que les structures et les véhicules médicaux doivent être respectés et protégés pour permettre aux agents de santé de soigner et transporter les patients dans un environnement sûr et sécurisé. Précisons que des tirs d'armes lourdes sont entendus toute la matinée ce samedi dans la partie ouest de Kibumba où des combats sont toujours violents entre l'armée congolaise et les groupes armés locaux contre les rebelles du 1-23. En revanche, dans la zone de Bambo, Kishiche et villages environnants, une accalmie est observée. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Et sous un autre chapitre, le nouveau comité de coordination nationale des programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, est entré en fonction hier vendredi. Nommé par ordonnance présidentielle le 16 octobre dernier, la coordination nationale est dirigée par Michel Abbé, Jean Bosco, Baal Okwibale, secondé par William Kapuku et Sylvie Kayomo. Au cours de la cérémonie des remises et reprises avec le comité sortant, Jean Bosco Baal Okwibale a plaidé auprès de Kassim Diagne, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations en RDC, pour que les partenaires multilatéraux puissent décaisser des fonds promis pour stabiliser l'Est de la RDC. On l'écoute au micro de Richard Junior Kamunga.
Je voudrais m'adresser de façon particulière à monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Lancez, s'il vous plaît, vous êtes les Nations Unies, un message à toutes les nations qui veulent accompagner la République démocratique du Congo à la recherche de la paix. Nous avons besoin maintenant d'une aide cruciale au moment où certains coins de notre pays sont en guerre, où les populations sont déplacées. Le programme de désarmement, de mobilisation, et relèvement communautaire et stabilisation est cette solution rapide qui doit venir d'abord sortir tous ces gens qui ont pris les armes sous des prétextes divers, parce que leur village était attaqué. Nous avons besoin de la communauté internationale pour que nous puissions vite les sortir de leur tanière, les sortir, leur enlever d'abord les armes, parce que ces armes ne tuent pas seulement ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Ces armes tuent aussi leur population. Soyez le porte-parole de nos partenaires, les partenaires bilatéraux, multilatéraux, pour que l'aide que chaque fois ils nous promettent puisse devenir une aide concrète. Que cette aide aussi suive le rythme de notre volonté d'aller de l'avant.
Kassim Diagne, représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations en RDC, a promis une étroite collaboration avec le nouveau comité du PDDRCS. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit hier vendredi le vice-premier ministre de la fonction publique de tout mettre en œuvre pour garantir la formation des jeunes cadres de l'administration publique en République démocratique du Congo, mais aussi de perpétuer la marche du train des réformes et de garantir une bonne formation de ces jeunes cadres de l'administration publique. C'est ce qu'a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, dans le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier vendredi. Le ministre de la Communication et Médias rappelle que le président de la République, qui tient au rajeunissement de l'administration publique, avait présidé le mardi 24 octobre la cérémonie officielle de sortie de la 8e promotion de l'École nationale de l'administration ENA, en même temps que le lancement de la 9e promotion. Des détails avec Alain Hirung.
Baptisée du nom du combattant de la liberté Papa Simon Kimbangu, cette nouvelle promotion des cadres administratifs vient agrémenter les efforts louables fournis par le gouvernement dans le sens de la régénération de notre administration publique sur toute l'étendue du territoire national et de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses agents, a indiqué Patrick Muyaya. Félix-Antoine Tshisekedi a félicité le gouvernement à travers le Premier ministre, en particulier le vice-premier ministre de la fonction publique, pour le dévouement affiché dans la réalisation de la grande mission de réformer notre administration. Et il a également rappelé son engagement pris dans le sens du renforcement des capacités de l'ENA et de la construction d'un campus moderne à Kinshasa. Bien qu'elle puisse paraître parfois impopulaire, a soutenu le porte-parole, il convient néanmoins de poursuivre avec certaines réformes et entrer à la mise en retraite des agents pour permettre, outre les promotions en grade, l'introduction des nouveaux agents dont les futurs lauréats de l'ENA.
Dans la province du Maniema, la marche de protestation contre la mauvaise qualité des réseaux de télécommunications mobiles a été annulée par l'autorité provinciale. L'avocat conseil de l'ONG Maniema United, dont le président est Jafari Kilongo Juvenal, s'est dit être au regret de constater un manque de considération à l'endroit de la population par le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala. De son côté, le gouverneur intérimaire évoque la situation sécuritaire en cette période préélectorale comme motivation. Florence Kizalunga, reportage.
Réunis sur l'avenue Lubamba au point de départ de la marche, la foule a été surprise de la décision brusque du gouverneur intérimaire l'interdisant pendant que le maire l'avait déjà autorisé. L'avocat conseil de cette structure déplore Maître Ngongo Amissi.
Nous sommes surpris de le voir interdire la marche qui d'ailleurs a été organisée pour la population parce que la population a beaucoup souffert par rapport à la mauvaise qualité de nos trois réseaux. En tout cas, je ne sais pas si c'est une manière de piétiner les intérêts de la population. En tout cas, derrière sa décision, là, il y a une main noire. Ce qui nous met un peu mal à l'aise et nous dénonçons ce genre de choses.
Pour le gouverneur, cette marche est inopportune car les responsables de ces maisons de télécommunications sont déjà invités. Afan Idrissa.
D'abord, pour des raisons de sécurité. Comme vous le savez, nous nous approchons du début de la campagne électorale. Je ne voudrais pas que les gens de mauvaise foi puissent profiter de cette marche pour créer le désordre de deux. Au lieu que ceux qui ont écrit ces mémos de venir poser leurs problèmes encore au gouvernement pour qu'on puisse les répondre, ils ont préféré créer le désordre. Donc là, je trouve que c'est un acharnement contre les partenaires de l'État.
Signalons que pour ces dossiers, une plainte a été déposée au parquet et une pétition au gouverneur par l'ONG Maniema United. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Matadi, au Congo central, le complexe scolaire Espérance des enfants malentendants et l'hôpital provincial des références de Kinkanda viennent d'être dotés de kits de dignité pour filles malentendantes et d'autre part des équipements médicaux. Cette donation est faite dans le cadre du partenariat entre la province du Congo central, le Royaume de Norvège et le Fonds des Nations Unies pour la Population. Dans son adresse, la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la Population, Suzanne Mandong, a indiqué que l'intervention de son institution vise la réduction du taux de mortalité maternelle au Congo central, où d'après les statistiques, 540 femmes décèdent lors de l'accouchement par an. Le point avec Nana Plurish Mambou.
Ces matériels médicaux dotés à l'hôpital provincial des références de Kinkanda sont entre autres les tables de maillots, celles de réanimation néonatale, celles d'accouchement ainsi qu'une table chauffante pour les nouveau-nés. Il s'agit des équipements et matériels visant à assurer les soins d'accouchement et la prise en charge efficace des urgences obstétricales et néonatales, a indiqué Suzanne Mandong, représentante résidente de l'UNFPA. Ces équipements seront installés dans un bloc opératoire en pleine construction à côté de la maternité de l'hôpital provincial de Kinkanda pour ainsi permettre la réalisation des césariennes en urgence. Pour le médecin directeur de cette formation sanitaire, cette acquisition vient soulager l'hôpital. Docteur Bijoun Soki.
L'hôpital a vieilli, les matériels aussi sont devenus vétustes. Maintenant que la NFPA vient nous donner beaucoup d'équipements, ça va nous aider à améliorer la qualité des soins. Puis avant la construction du bloc opératoire, nous amenions nos parturientes à 150 mètres de la maternité. Donc il faut courir une urgence extrême avec la parturiente au bloc opératoire. C'est pas entraver la qualité des soins. Bon, disons un grand merci au Royaume de Norvège. Merci beaucoup à NFPA qui a su comprendre les besoins.
La cérémonie des remises de ces équipements médicaux a eu lieu en présence de l'ambassadeur norvégien en poste en RDC Old Monster et du gouverneur du Congo central Guy Bandundungidi. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, lancement hier vendredi au poste frontalier de Kamvimvira, dans la ville d'Uvira, du projet de facilitation du commerce et d'intégration dans la région des Grands Lacs, FPPFCRGL. Le ministre d'État chargé des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a procédé à la pose de la première pierre des travaux de modernisation du poste frontalier de Kamvimvira. Ce projet, ainsi que la construction du marché régional et la modernisation d'autres infrastructures, dont le port public de Kalundu et la réhabilitation de l'axe routier partant de la frontière congolo-burundaise de Kamvimvira jusqu'au port de Kalundu, rentre dans le cadre de cette facilitation du commerce et d'intégration régionale. Des détails avec Fiston Ngoma.
Devant les invités de marque venus de Kinshasa et de Bukavu, dont les gouverneurs des provinces Teongwa Bidje, le ministre d'État Alexis Guissaro s'est adressé directement à la frange de la population locale venue pour la circonstance, lui recommanda de privilégier l'unité, la cohésion sociale et le travail en vue de favoriser le développement de la région. Il a dit que ce projet de construction de bâtiments bénéficiera d'abord aux migrants et aux petits commerçants transfrontaliers. Il va aider à améliorer le climat des affaires, leur permettre de faire les commerces en toute sécurité et facilité. Signalons que le site où sera érigé le nouveau bâtiment du poste frontalier de Kavivira était occupé par le maraîcher, membre d'une association coopérative locale. Leurs activités ainsi que celles des services frontaliers avaient été perturbées à cause des inondations dues aux pluies diluviennes. Par ailleurs, une tournée à travers la ville, respectivement au port public de Kalundu, au pont Kalimabenge, ainsi que sur la route Mwami a permis à l'autorité gouvernementale de se rendre compte du danger des disparitions qui courent la ville d'Uvira si rien n'est fait pour curer près de 10 rivières qui la traversent et pour planter les arbres anti-érosifs sur le flanc des montagnes. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayaba, la Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Madagascar, le général Richard Ravalomanana, récemment élu président du Sénat, est le nouvel homme fort du pays. La haute cour constitutionnelle a annoncé hier vendredi qu'il devenait le président par intérim, comme le veut la constitution en période électorale. Une décision qui survient deux semaines après la destitution expresse de l'ancien président du Sénat, Eri Manana Razafimahefa. En Sierra Leone, la reprise du procès du chef de l'opposition, Samora Camara, a été repoussée au 17 novembre prochain. Le procès du leader de All Parties Congress, APC, devait reprendre hier, vendredi 27 octobre, mais a été reporté en raison d'un problème de calendrier.
L'invité.
L'invité de ce journal est le président national de l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC. Mirande Mulumba parle de certaines dispositions de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus qui, d'après lui, méritent d'être revus ou tout simplement élagués pour ne pas continuer de consacrer l'impunité en RDC. Mirande Mulumba s'entretient ici avec Blaise Nongala Mayanda. Suivez.
Bonjour, Mirande Mulumba.
Bonjour.
L'Association nationale des victimes du Congo a organisé une conférence débat axée sur l'analyse juridique de la loi portant protection des anciens chefs d'État face à la lutte contre l'impunité en RDC. Quelles sont vos motivations?
Cette activité, ce que nous pouvons retenir est que la République de l'impunité appartiendra désormais à l'histoire. Aujourd'hui, l'association faisant la promotion et la défense de toutes les victimes de la République s'est engagée résolument pour lutter contre l'impunité des crimes graves commis en RDC. Cela suppose qu'on soit riche ou pauvre. Qu'on soit président de la République, qu'on soit premier ministre, qu'on soit ce que ce soit, nous devons répondre des actes que nous avons commis. Peu importe les circonstances dans lesquelles ces actes ont été perpétrés, mais vous devez être redevable vis-à-vis des instances judiciaires. Je crois que c'est une manière de consoler les victimes dans leur souffrance.
Cette loi a été votée en 2018, alors pourquoi avoir attendu 5 ans pour amorcer votre démarche.
Nous supposons absolument qu'il y avait l'arbre qui cachait la forêt, du fait que la loi n'a pas suivi son cours normal qui a conduit à son adoption, pourquoi pas, à sa vulgarisation. D'où, aujourd'hui, nous soutenons la démarche entreprise par le professeur Jacques Ndioli, l'honorable, qui, dans sa démarche, qui vise absolument la révision, notamment de certaines dispositions qui fâchent.
Quelles dispositions, par exemple, voudrez-vous que les législateurs puissent réviser?
Comme l'article 7 qui stipule que tout ancien chef de l'État joue de l'immunité de poursuite pour de crimes commis dans l'exercice de ses fonctions. Mais ça, c'est inadmissible de constater qu'on est l'émanation de la volonté du peuple. On devient chef de l'État et on doit exercer pour l'intérêt supérieur de ce peuple. Et lorsque le peuple vous retire sa confiance, c'est un peuple qui devient opprimé. Vous commettez des bévues et on monte une loi de toutes pièces qui doit vous couvrir à la fin de votre mandat. C'est insulter ce peuple-là que vous avez choisi pour conduire la destinée du pays. Donc, pour honorer, pour respecter le peuple, car la souveraineté revient au peuple. Aujourd'hui, le peuple qui est victime aujourd'hui a levé le ton que la dite loi est impropre et ne peut pas être consommable. Voilà pourquoi nous voudrions que certaines dispositions soient revisées en toute urgence. C'est pour combattre l'impunité des crimes graves commis en RDC. Mais aussi, comme cela ne suffisait pas, partant des avantages accordés à ces derniers. Nous nous posons la question, qu'est-ce qu'un ancien chef de l'État, bien sûr qu'il a rendu le service à la nation, qu'est-ce qu'il n'a pas reçu dans l'exercice de ses fonctions qu'il pense bénéficier quand il n'est pas président de la République? Si on gère pour l'intérêt du peuple, je trouve qu'il lui fallut que nous puissions mettre les intérêts du peuple à l'avant-plan, au lieu de jouer l'assiette au beurre.
Après cette conférence, débat, quelle démarche comptez-vous poursuivre pour atteindre votre objectif?
La démarche que nous allons devoir initier, ce sont les recommandations que nous allons déjà, avant la fin de la semaine, déposer au Parlement, c'est-à-dire au bureau de deux chambres du Parlement, pour que ces recommandations soient en toute urgence endossées par notamment le professeur Ndioli, afin que ça fasse l'objet de la priorité et par rapport à certaines matières qui seront alignées, je crois, au premier trimestre de l'an 2024. Je crois que après, nous allons demander au président de la République, après l'examen et le vote, je crois que la proposition sera soumise sur sa table et nous allons voir si absolument le président de la République vise le peuple d'abord ou bien ses intérêts d'abord.
Certains conférenciers ont estimé que pour cette démarche viserait un individu ou un groupe d'individus. Qu'en dites-vous?
Une loi, quand elle est promulguée, elle est impersonnelle. Elle ne vise personne. C'est ce que nous devons retenir. Cela suppose que la dite loi vise absolument le président Kassavubu, visait les autres présidents, Moussé Laurent Désiré, etc. Et la loi ne vise pas un seul individu parce qu'elle est impersonnelle. Donc, qui se sent mauvais ce mouche?
Miran Moulumba, Radio Capi vous dit merci.
À moi de vous dire merci.
C'était notre invité, le président national de l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC. Miran Moulumba s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Fin de ce journal qui a été supervisé par Alain Irung, Jacques-Yves Molima l'a coordonné et Alain Goy l'a mise en onde. À leur nom, je vous dis infiniment merci de l'avoir écouté.